9h ou 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Le métaverse, retenez ce mot, vous l'entendrez beaucoup prononcé au cours des années à venir. C'est la prochaine étape après Internet et les réseaux sociaux. Voici l'univers virtuel. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, vient de l'annoncer. Il commence à construire le sien. Faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter? Bertrand Merz, l'auteur des réseaux sociaux contre la démocratie, est mon premier invité ce matin. Il fait partie des inquiets. Je recevrai ensuite Riyad Satouf avec l'arabe du futur et les cahiers d'Esther. Il est devenu l'auteur français de bande dessinée le plus en vue. Le voilà qui se lance dans une nouvelle saga, le jeune acteur, les aventures de Vincent Lacoste au cinéma. Et l'on terminera l'émission avec Sylvie Ohayon, la réalisatrice de Haute Couture, avec Nathalie Baye et Lina Koudry, qui sort mercredi en salle. Un pur film de femme comme il n'en existait pas au siècle dernier.
Europe 1.
Alors que l'entreprise Facebook doit faire face à une avalanche d'enquêtes, de révélations, d'accusations, Mark Zuckerberg a annoncé en grande pompe son grand projet stratégique, le Métaverse, un univers virtuel qu'il se donne 10 ans pour mettre au point et qui permettra à tout le monde de se retrouver virtuellement, donc en présence de chacun. Bertrand Merz, bonjour, vous êtes avocat, ancien maire de Thionville, vous êtes l'auteur du livre « Les réseaux sociaux contre la démocratie » chez Eddy Livre. C'est sous-titré « Palimpeste de la société du spectacle ». Vous faites partie de ceux qui s'inquiètent de l'annonce de Mark Zuckerberg, et ce qui vous inquiète encore plus, c'est que ça n'a pas l'air d'inquiéter grand monde.
Ben oui, oui, bonjour Frédéric. Oui, ça m'a surpris lorsque M. Zuckerberg a fait cette annonce que ça n'ait pas suscité autre chose qu'une simple transmission de l'information sans recul critique, sans réflexion sur ce que cela représente. Pourtant, c'est une chose qui est attendue depuis longtemps. On se doutait que ça allait arriver un jour. Il y a un auteur américain qui s'appelle Neil Stephenson qui, dans un roman de science-fiction américain en 1992, un roman qui s'appelait Snow Crash, le titre français c'était Le Samouraï Virtuel, annonçait déjà un univers futuriste, apocalyptique, avec des personnages qui allaient se réfugier dans la réalité virtuelle. Bon, plus récemment, on a vu au cinéma le film de Steven Spielberg, Ready Player One. Et puis, il y a déjà plus de 20 ans, on a eu la trilogie Matrix, hein, qui, elle, va encore plus loin, hein, qui imagine que tout cela ne passe plus par des casques de réalité virtuelle, mais par un branchement direct sur le cortex cérébral. Donc, on a été avertis. Bon, et puis, c'est déjà entré en partie dans la réalité. Rappelez-vous, en 2003, il y a le jeu Second Life, hein, qui est déjà une sorte de préfiguration de ce que pourront être les univers virtuels. Alors il y a eu l'annonce de Facebook, mais Microsoft n'est pas en reste, hein, puisque le patron de Microsoft a annoncé la création de Mesh, hein, qui se veut également un métavers, mais spécialisé dans le domaine professionnel. Bon, donc on nous annonce cela, et puis bah voilà, bien qu'on ait été averti, qu'on ait été mis en garde, hein, par des intellectuels, par des auteurs, par des cinéastes, ça a l'air de passer tout seul et personne ne se pose de questions. Moi, je m'en pose. Et je m'en étais déjà posé à propos des réseaux sociaux parce qu'il me semble que les réseaux sociaux mériteraient aussi que les intellectuels s'interrogent sur ce que cela représente dans notre société. Ça fait maintenant 15 ans qu'on vit avec les réseaux sociaux. On voit qu'ils ont profondément modifié, hein, les rapports sociaux, même si, selon moi, ils ne constituent pas un véritable rapport social, mais ils ont changé le climat, si on peut dire, dans la société. Il n'y a pas beaucoup d'interrogations sur ça.
On dit quand même beaucoup de mal des réseaux sociaux, notamment les intellectuels.
Alors, mais justement,
Beaucoup de mal de Facebook aussi.
Et on dit beaucoup de mal de Facebook.
Sauf que ce qui inquiète aujourd'hui le plus, c'est que l'algorithme de Facebook semble échapper au contrôle de ses créateurs et que le réseau social aux 2,9 milliards d'abonnés, c'est devenu une sorte de golem qui fonctionne tout seul, au fond.
Oui. Bien sûr, puis bon, il y a eu le scandale de Cambridge Analytica, il y a eu une crise technique le 4 octobre dernier, il y a l'histoire du contrôle, plutôt de la perte de contrôle des algorithmes, mais tout ça, et on pourrait ajouter d'ailleurs l'histoire des fake news, mais tout ça c'est très bien, mais à mon avis ça ne va pas au fond du problème. Le fond du problème c'est qu'est-ce que c'est qu'un réseau social, et donc là j'ai pensé qu'il était intéressant de réactiver une vieille critique de ce que Guy Debord avait appelé la société du spectacle, en considérant que les réseaux sociaux étaient une strate supplémentaire dans la société du spectacle, et d'essayer, en appliquant ces raisonnements, de comprendre ce qui est en train de se passer. Et à mon avis, ce qui est en train de se passer, et l'annonce de la création du métavers est une étape encore supplémentaire, tout cela est plutôt inquiétant.
Alors, le métaverse, c'est une contraction de méta-univers. On parle d'un univers virtuel, hein, vous l'avez dit. Donc, on savait effectivement que c'était la prochaine étape, c'est-à-dire un forum où l'on serait incarné par un avatar, où on deviendrait acteur de ses expériences plutôt qu'un simple observateur ou un consommateur. Alors, il faudra un casque ou des lunettes, on le sait déjà, et on aura l'impression d'être en présentiel. Il faudra reconstituer nos expressions faciales, il va falloir simuler un contact visuel entre les utilisateurs, comme dans les jeux vidéo en ligne. Au fond, c'est ce que nous promet Mark Zuckerberg. Internet est déjà une sorte de grand supermarché avec un réseau social. Au fond, il veut marier le supermarché et le réseau social et qu'on y passe le plus longtemps possible.
Oui, mais dans la critique que je fais des réseaux sociaux, est déjà comprise par anticipation, ce qu'on peut dire, la critique de ce que sera le métavers. Et à mon avis, il faut l'analyser comme s'il était une idéologie. Et c'est ça, en réalité, qui fait défaut aujourd'hui dans la critique, ou plutôt l'absence de critique des réseaux sociaux et demain du métavers. C'est une idéologie. Si vous permettez, je voudrais essayer d'expliquer le raisonnement. Qu'est-ce que c'est qu'une idéologie ? Au départ, les êtres humains ont d'abord élaboré un langage pour communiquer. Mais le langage n'est pas seulement un moyen de communiquer, c'est aussi un moyen de représenter la réalité et d'apporter une explication ou des explications aux phénomènes que rencontrent les êtres humains. Bon, les premières représentations du monde ont sans doute été magiques. Les êtres humains voyaient des choses qu'ils ne comprenaient pas, ils se donnaient une explication magique avec des images. Bon. Et puis ensuite, on a eu des représentations religieuses, hein, qui étaient polythéistes puis monothéistes. Et puis, beaucoup plus tard, on est arrivé à des représentations du monde qui ne faisaient plus appel à la figure de Dieu. Et on a eu les grands systèmes nés des découvertes du XVIIIe siècle, hein, l'humanisme libéral du XVIIIe, puis on a eu le socialisme, le communisme. On a eu les terribles idéologies mortifères du XXe siècle, hein, le nazisme, le stalinisme, le fascisme, etc. Tout ça, c'était des idéologies, c'est-à-dire c'était des systèmes de pensée qui représenter un fétichisme de l'idée, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler de l'idéolâtrie. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, a commencé à monter en puissance un phénomène nouveau, ce que Guy Debord appelait le spectacle, le cinéma, la télévision, la publicité, et puis maintenant l'Internet. Et donc, l'ensemble du phénomène spectaculaire a commencé à occuper les esprits et à remplacer les idéologies. Tout est dans le spectacle est tout, il est tout ce qui importe. Et la manière dont nous concevons les choses est d'abord le résultat de ce bain spectaculaire dans lequel nous sommes en permanence.
On fait une pause, Bertrand Merz, et on va rentrer dans ce que vous venez de nous dire en détail.
Europe 1,
9h-10h, c'est arrivé demain. 9h-10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Bertrand Merz, l'auteur des réseaux sociaux contre la démocratie. Mark Zuckerberg a annoncé en grande pompe son prochain grand projet stratégique, le métaverse. Alors, il va dépenser des milliards pour construire un métaverse, digne de ce nom, un univers virtuel pour que tout communique et que l'on puisse se déplacer à l'intérieur, comme dans les pièces d'une maison, du réseau social au supermarché, qu'on puisse y donner des rendez-vous, y organiser des réunions, assister à des concerts. C'est ça qui vous fait peur, Bertrand Merz ?
Oui, on peut dire que le spectacle s'est constitué. Le spectacle des réseaux sociaux, demain le spectacle du métavers, s'est constitué comme un adjuvant à la réalité qui prolonge l'aliénation en une véritable séparation, c'est-à-dire en une forme d'organisation de la psyché humaine dans laquelle l'être humain est constitué d'une part comme une puissance de production qui est dépossédée du produit de son travail et en même temps comme un réceptacle d'une production imaginaire portée par le spectacle généralisé. Et donc dans cet univers-là, eh bien nous perdons le contrôle de nous-mêmes. Le pouvoir est transféré à ceux qui contrôlent tout cela. D'abord, vous l'avez dit, on l'a dit au début de notre entretien, ils contrôlent les algorithmes qui font fonctionner le système. C'est le cas actuellement avec les réseaux sociaux, on le sait très bien. Et puis, étant plongé en permanence dans ce bain spectaculaire qui occupe l'esprit, eh bien, y a-t-il encore de la place pour la liberté, pour le sens critique, pour la contradiction ? On peut franchement se poser la question.
Mais Bertrand Merz, les livres ont dépendu longtemps d'une imprimatur religieuse. Le cinéma a été l'objet d'une loi antitrust. La télévision a été longtemps un monopole d'État. À chaque fois, il y a une volonté de contrôle.
Oui, à chaque fois, il y a une volonté de contrôle, oui, bien sûr. Mais je dirais qu'au fur et à mesure de la montée en puissance des instruments, la place de la liberté se fait de plus en plus petite. Et là, avec le métavers, on arrivera à un niveau de contrôle des consciences, de la pensée de chacun, tel qu'il n'avait jamais été pensé, à part par les auteurs de science-fiction.
Mais nos aïeux apprenaient la vie, en lisant des romans ou en allant au théâtre. Puis on est allé au cinéma, on s'est mis à regarder la télévision. Maintenant, on surfe sur Internet. Au fond, l'histoire de l'humanité est celle d'un lent confinement. À la fin, quand on écoute un concert dans un théâtre, sur un disque, à la radio, à la télévision ou dans un jeu vidéo ou dans la réalité augmentée, ça reste toujours un concert. On n'est pas Mozart et on n'a pas non plus Mozart pour soi tout seul comme pouvait l'avoir le prince archevêque de Salzbourg.
Mais la question n'est pas là, la question est celle du choix. Est-ce qu'on est encore libre de choisir ce que l'on veut découvrir, ce que l'on veut savoir, ce à quoi on veut s'intéresser? Lorsque, en permanence, nos sens sont enveloppés dans des messages portés d'abord par la publicité, d'ailleurs, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le langage idéologique dominant, c'est d'abord celui de la publicité. Et ce qu'il faut bien comprendre, d'ailleurs, c'est que dans ce système-là, les idées n'ont plus véritablement d'importance. Mais en réalité, tout cela repose tout de même sur un accord qui a été passé avec l'idéologie dominante. Alors là, pour le coup, au sens classique du terme, c'est-à-dire avec le libéralisme économique, un accord qui a été passé avec celle-ci. Et donc, en permanence, nous recevons des messages auxquels nous ne faisons pas attention, mais qui structurent notre psyché. Et donc, plus on avance dans le perfectionnement des systèmes de contrôle des esprits, plus on peut penser que la liberté va reculer. Avec les réseaux sociaux, à mon avis, on a franchi une étape supplémentaire dans ce que Guy Debord appelait la société du spectacle. Avec le métavers, on arrivera véritablement à un contrôle presque total.
Aujourd'hui, à peu près 95% des revenus de Facebook viennent de la publicité, peut-être aussi de la vente de nos données, mais ça, on n'en connaît pas le montant. Et Mark Zuckerberg, au fond, voudrait toucher aussi sur les concerts, les films, les séries, sur le shopping que nous faisons déjà sur Internet, mais que nous ferions virtuellement en nous incarnant dans un avatar demain sur le métaverse.
Oui, mais alors, bon, l'aspect économique, évidemment, il existe. Hein, les réseaux sociaux, pour le moment, représente déjà un point économique considérable. Mais dans la critique que je fais, ça n'est pas l'essentiel. Bien évidemment qu'il y a de l'économie dans cette affaire-là, mais ce qui me semble essentiel, c'est l'emprise qu'exercent sur les esprits ces systèmes de représentation du monde que sont les réseaux sociaux et que sera demain le métavers. Moi, ce qui m'inquiète, et je pense qu'il serait urgent que les citoyens s'interrogent là-dessus, c'est quelle sera la place pour la liberté quand nous serons totalement immergés dans un univers virtuel qui va devenir finalement une Second Life, comme disait le jeu, mais peut-être la première en réalité.
Second Life, je le rappelle, hein, vous le disiez tout à l'heure, c'est un jeu qui a été lancé en 2003 où on a un avatar, on lui met des vêtements, on vit une seconde vie. Ça existe toujours, hein, d'ailleurs, depuis 2003. Oui. Il y a d'autres métaverses comme ça qui ont été créés. Il y a Grand Theft Auto où on conduit des voitures, on rentre dans des bars. Il y a Fortnite aussi. Voilà. Mais pour l'instant, c'est rien. C'est encore amateur à côté de ce que rêve de faire Mark Zuckerberg. Et pas seulement Mark Zuckerberg, au fond, tous les GAFAM aujourd'hui.
Oui, je disais, Microsoft va également lancer son métavers. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, plus il y a une montée en puissance sur le plan technique par les moyens mis en œuvre, plus le système se perfectionne, plus il devient total. Alors je ne vais pas employer le mot totalitaire, mais en tous les cas, on doit s'interroger sur cela. On ne peut pas considérer que ces phénomènes-là sont sans conséquence sur la vie démocratique. Vous savez, Aldous Huxley, le grand écrivain de science-fiction américain, disait ceci. La dictature parfaite aurait les apparences de la démocratie. Une prison sans murs, dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Alors voyez, moi je suis avocat, je suis très attaché à la liberté et à la démocratie, et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion critique sur ce qui est en train de se passer. Sinon, Aldous Huxley aura eu raison.
Merci Bertrand Merz, on vous a entendu. Je renvoie sur votre livre, hein, Les réseaux sociaux contre la démocratie, qui est paru chez Edilivre. On fait une pause, on se retrouve dans un instant avec Riyad Satouf.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Riyad Satouf.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Après l'Arabe du futur et les cahiers d'Esther, qui rencontrent un gros succès en librairie et pas seulement en France, vous vous lancez donc dans une troisième série intitulée Le jeune acteur, les aventures de Vincent Lacoste au cinéma, dont le premier volume vient de paraître aux éditions que vous venez de créer, Les Livres du futur. Vous voilà donc auteur, dessinateur, personnage de bande dessinée, maintenant éditeur, il ne vous manque plus qu'une librairie, vous pourrez vivre en totale autarcie, devenir un trust à vous tout seul, tout contrôlé. Vous êtes le Mark Zuckerberg de la bande dessinée, non ?
Alors c'est drôle que vous disiez ça, parce que en fait, un de mes fantasmes est d'ouvrir une librairie, et je voudrais l'appeler la librairie du futur.
Bah oui,
donc
c'est
voilà, c'est... Mais alors il se trouve que je suis assez rabat-joie comme gars, rabat-joie dans le sens, je ne me drogue pas, je ne collectionne pas des trucs aberrants ou des, je suis pas fasciné, mais j'adore les livres, c'est le truc qui me fait me lever le matin. J'achète des éditions originales, je collectionne des anciennes éditions avec des maquettes différentes, etc. Et donc toute ma vie tourne autour du livre, et donc c'est vrai que plus je vieillis, plus je me dis que je m'autorise à faire des choses, et comme j'ai beaucoup de lecteurs, c'est vrai que c'était l'occasion de tenter cette aventure.
Je pensais que vous alliez dire comme j'ai beaucoup d'argent, que je ne sais plus quoi en faire.
Voilà, oui, c'est même pas ce qui vient en premier.
J'ai monté une maison d'édition, mais est-ce que vous vous imaginez éditer les livres des autres ou seulement les vôtres ?
Alors c'est toujours, vous savez, justement comme vous parlez de Mark Zuckerberg, si on parle de Jeff Bezos par exemple, tous ces types-là qui construisent, et Jeff Bezos il dit qu'il va faire une base spatiale autour de la Terre, mais il n'a même pas encore fait sa fusée qui décolle correctement du sol, et donc j'ai toujours des problèmes avec les gens qui parlent des projets qu'ils vont faire alors qu'ils ont... Enfin, moi, je préfère que ce soit les projets qui fassent parler d'eux. Voilà. Moi, je ne préfère pas dire ce que je vais faire, mais déjà, éditer cette bande dessinée avec Vincent Lacoste, c'était mon premier défi.
Dans Le jeune acteur, vous racontez les aventures de Vincent Lacoste depuis son collège en ZEP jusqu'au plateau de tournage des Beaux Gosses, votre premier film réalisé en 2008 qui allait lancer sa carrière. Il est aujourd'hui à l'affiche de son 28e film, hein, Illusion perdue. Vous allez tout nous raconter ? Un album chaque année pour les 28 films ?
Non, ce qui se passe, c'est que c'est l'histoire du jeune acteur, c'est pas tant sur le cinéma ou une filmographie où on n'a pas besoin d'avoir vu les films pour... Moi, ce qui m'intéressait, c'était cet ado que j'ai choisi pour interpréter le premier rôle de mon premier film qui racontait des histoires d'adolescents, etc. C'était un petit gars qui était en effet dans un collège difficile, mais c'était pas un caïd non plus. Mais en fait, il n'avait jamais rêvé ni désiré un seul instant être acteur. Et il se trouve que comme je cherchais des acteurs avec des physiques marquées, je ne voulais pas de bellâtre, je ne voulais pas de mec musclé de 21 ans pour jouer des types de 16 ans. Et donc, j'avais fait des petits dessins à la directrice de casting. Je lui avais dit, mais je veux des mecs moches comme moi j'étais à mon époque. Donc, j'avais fait des gros nez, des grosses dents avec des appareils, des boutons, des têtes bizarres, etc. Donc, elle était allée dans une... Elle avait fait la tournée des collèges de... et elle était tombée dans une cantine sur un groupe de petits gars qui étaient là. Elle leur avait donné... Il y avait Vincent parmi eux. Et il se trouve qu'il a appelé parce que ses copains l'avaient fait, il est venu, il a passé le casting. Et quand la première fois que je l'ai rencontré et qu'il est entré dans cette pièce du casting, j'ai eu la sensation qu'un de mes dessins venait à ma rencontre. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est quelque chose de très étrange comme sensation. Mais tout en lui semblait avoir été... il était parfait, même dans sa nullitude ou nudité, je ne sais pas comment dire. Ce n'était pas du tout un acteur. Il était complètement... c'était un être, un personnage complet. Et évidemment, le temps a passé, etc. On est restés amis, etc. Et je l'ai vu grandir, et au bout du moment, grandir et évoluer dans ce métier et adorer ce métier-là, alors qu'il n'avait jamais eu envie de le faire. Et au bout du quatrième film qu'il faisait avec Depardieu, je me suis dit, mais toutes les histoires pas possibles qu'il me raconte sur les coulisses du métier, mais aussi de ce que c'est que d'être entre guillemets célèbre. C'est-à-dire, moi, quand je vais boire des cafés avec lui, les nanas et les mecs commencent à lui laisser leur numéro, des gens viennent le féliciter. On voit bien qu'il y a un pouvoir qui naît sur les autres. Et aussi un devoir, parce que souvent il se fait aussi engueuler. Enfin, et c'était très intéressant, je trouvais, moi, d'un point de vue même de curiosité personnelle, de raconter la naissance d'une célébrité, entre guillemets. Voilà.
Oui, parce que Le jeune acteur, c'est aussi une réflexion sur la célébrité, qui est aussi une obsession de notre époque, hein, à travers un garçon donc, que vous repérez quand il a 14 ans, et que vous catapultez sur un plateau de cinéma, en sachant très bien qu'il n'y en a pas beaucoup, des gamins qui ont fait du cinéma à 14 ans, qui s'en sont sortis indemnes. Hein. Vous jouiez avec le feu, un peu comme le professeur Frankenstein. Et c'est aussi ça que vous racontez, au fond.
Mais tout à fait, c'est exactement ça. Et alors, je vous dirais pas que j'étais détendu, parce que lorsqu'on a commencé ce tournage, évidemment, moi, je me suis immédiatement transformé en une sorte de tonton extrêmement désagréable. C'est-à-dire, je ne lui faisais jamais de compliments. J'avais extrêmement peur qu'il pète un câble.
Qu'il prenne
la grosse tête. Je lui avais pris un professeur pour qu'il passe son brevet des collèges. J'avais très peur. Vous savez, qui ressemble à l'archétype de l'acteur américain, du jeune acteur américain qui finit toxicomane et qui est arrêté en possession de drogue dans une voiture de luxe à Los Angeles, ou je sais pas quoi. No way ! C'était interdit avec moi. J'étais le gros rabat-joie. Et donc, voilà, et c'est vrai qu'ensuite...
Alors, il le raconte.
C'est pas pour ça qu'il m'obéissait forcément, donc je raconte ça aussi, mais...
Vous vouliez absolument qu'il passe son brevet, puis son bac. Vous êtes fier de vous, parce qu'à quoi ça va lui servir, ces deux diplômes, d'ailleurs, totalement dévalorisés.
Je suis d'accord avec vous. Oui, peut-être bien, Frédéric, mais c'est mieux de les avoir. C'est-à-dire, quand vous apprenez à piloter un avion, vous devez savoir comment vous poser en état d'urgence. Et c'est pas tout le temps Il faut toujours savoir avoir des portes de sortie. Alors, il se trouve que c'était impensable pour moi que, parce que monsieur aurait été mis dans un film, qu'il arrête ses études et qu'il... Voilà, c'était pas du tout gagné d'avance. Donc, puis voilà, moi, c'est vrai que j'ai un côté un petit peu...
Vous l'avez le bac, vous ?
Moi, j'ai le bac, bien sûr.
Bon, ouais, oui. Moi aussi. Voilà. On fait une pause, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec Riad Satouf, l'auteur de L'Arabe du futur et des Cahiers d'Esther, se lance dans une troisième série intitulée Le jeune acteur, les aventures de Vincent Lacoste au cinéma. Pourquoi est-ce que l'enfance et l'adolescence vous obsèdent-elle à ce point, Riad Satouf, que ce soit La vie secrète des jeunes, Le manuel du puceau, Ma circoncision, L'Arabe du futur, Les Cahiers d'Esther, Le jeune acteur, Les beaux gosses, votre film, on dirait qu'il y a que cet âge qui vous parle à l'imagination. En 2005, vous aviez 27 ans, vous êtes même retourné au collège pour vérifier si c'était toujours la même chose. Et ça a donné Retour au collège, qui est un album absolument désopilant. Mais enfin, vraiment, c'est une obsession.
Oui, c'est vrai. Alors, je crois que le thème de la jeunesse, comme tout le monde, je suis de moins en moins jeune, je commence à avoir plusieurs générations. Donc déjà, Vincent... La génération de Vincent, c'est la génération d'avant la mienne. Enfin, il y en avait peut-être une encore avant la mienne. Les Cahiers d'Esther, c'est la génération encore... Et c'est vrai que observer les jeunes comme ça, sur un temps long, et comment ils évoluent, comment ils grandissent, etc. Moi, même en tant qu'être humain, ça me passionne, parce que je me dis, mais j'essaie de deviner quel va être le futur plus tard, à travers leurs actions, à travers leurs pensées, j'ai grandi avec une... L'idée que le futur allait être riche de promesses ou riche de modernité qu'on allait aller dans l'espace, je sais pas, dans des vaisseaux spatiaux coloniser d'autres mondes, d'autres planètes, etc. Et donc je garde un élan vers le futur et c'est ça que j'aime beaucoup chez les jeunes. C'est je me dis comment on va faire pour leur transmettre tout ce que les générations précédentes ont appris ou accumulé ou je sais pas quoi, quelle éducation leur donner, comment on progresse ou comment on régresse, etc. Et aussi l'adolescence, c'est vraiment... l'âge de la transformation, de la métamorphose, il y a quelque chose de magique là-dedans. C'est-à-dire, on perd en quelques mois le physique qu'on avait, on se passe de petit garçon à une espèce de grande créature un peu bizarre, on hérite d'un corps comme si on avait été choisi par une... béni par une fée ou une espèce de sorcière. Toi, tu seras Cindy Crawford et toi, tu seras Satouf. Et en fait, toi, tu seras Arnold Schwarzenegger. Et en fait, je trouve qu'il y a à la fois une injustice et quelque chose de très marrant à observer ça chez les autres aussi. Enfin, je sais pas, ça me plaît beaucoup.
Alors, cet album, au fond, c'est la même chose que d'habitude et c'est très différent, comme souvent chez vous, Riad Satouf. Par exemple, pour la première fois, il y a deux points de vue. Il y a celui de Vincent Lacoste, qui vous raconte sa vie et vous en faites une bande dessinée, puis il y a le vôtre. C'est très très drôle, au fond, cette confrontation.
Bah, alors, c'était l'occasion, c'est vrai, de pouvoir... parce que c'est aussi le récit d'une amitié. Alors, c'est un garçon que j'ai rencontré quand il avait 14 ans, mais il m'a rapidement rattrapé dans l'âge adulte. Et c'est aussi un contrepoint, parce que l'idée de ce livre était de ne pas forcément se faire de cadeaux, c'est-à-dire... d'aller à fond dans toute la vérité, sexe, drogue and rock'n'roll, je sais pas comment vous le dire autrement, mais voilà, et il fallait que j'offre à Vincent un contrepoint sur moi, et ça m'intéressait aussi de voir comment il avait perçu cette expérience, comment il me voyait moi. Alors c'est vrai que je suis déjà un personnage de bande dessinée dans l'Arabe du futur, mais c'est très différent, c'est pas la même chose. Là, je suis vraiment adulte dans un futur lointain. Et ça m'intéressait de voir ce qu'il avait retenu, comment il me voyait.
Voilà. Vous n'avez pas été déçu parce que c'est pas génial.
Mais moi, je me trouve très bien. Moi, je ne sais pas pourquoi. J'aurais bien aimé me rencontrer au même âge.
Et lui, comment s'est-il trouvé? Parce que Dieu sait s'il a souffert de la façon dont vous l'avez attifé, coiffé pendant le tournage des Beaux Gosses, mais la façon dont vous l'avez dessiné et rendu dans son intimité là, avec ses parents, avec ses copains de classe,
non, c'est
entouré
vrai.
Par les acteurs sur le tournage, là aussi ça a dû être un choc.
Bah, disons que après c'est vrai qu'il me faisait confiance quand même, l'idée n'était pas quand même de détruire sa vie complètement.
Une deuxième fois.
C'était de raconter, voilà, d'être le plus proche du réel, donc ça lui a bien plu. Alors bon, les acteurs ils vivent beaucoup avec leur apparence, alors surtout qu'il commence à avoir vraiment la réputation d'être extrêmement beau, donc je lui avais fait vraiment un nez gigantesque. Enfin, moi je trouve qu'il a un gros nez personnellement. Je n'aurais pas diminué la taille de son nez pour lui faire plaisir. Moi aussi j'ai un gros nez dans la bande dessinée, donc non, il était plutôt satisfait. Voilà, il attendait de voir les réactions et l'accueil des gens.
Les Beaux Gosses avaient été un beau succès qui vous a valu un César, je crois, du premier film, et puis 5 ans plus tard vous allez faire, toujours avec Vincent Lacoste, Jackie au Royaume des Filles, qui sera un échec d'autant plus cuisant qu'il aura coûté beaucoup plus cher, un sacré coup de chance au fond, parce que c'est ce qui vous a fait renouer avec le meilleur de vous-même, l'auteur de bande dessinée. Si Jackie au Royaume des Filles avait marché, on n'aurait jamais eu droit à l'Arabe du futur. Vous seriez en train de réaliser Astérix et Obélix au Caire ou en Arabie avec Vincent Lacoste dans le rôle d'Astérix.
Voilà une très bonne idée, Frédéric. Je vais immédiatement appeler mon agent.
Non, vous vous rendez compte la catastrophe que ça aurait été?
Non, mais c'est-à-dire, je crois qu'il y a un... C'est peut-être le seul aspect, ésotérique que je pourrais voir dans la création artistique, mais je crois qu'il y a une sorte de logique inconsciente quand on fait les choses et qui n'obéit pas forcément à la conscience. Voilà, moi, je me rappelle à la fin des Beaux Gosses, qui avait été un beau succès. J'ai eu plein de propositions géniales de faire des films, même d'écrire ce que je voulais, mais d'autres choses. Et j'ai choisi de faire Jackie Homme des Filles, qui était une sorte de film un peu science-fiction comique dans une dimension parallèle où les femmes ont le pouvoir sur les hommes. Et c'était comme si... c'était le moyen d'aborder ce sujet, de retomber après, de revenir à la BD. Et c'est un film qui est en train de revenir à la mode. Il a été mis sur certaines plateformes de streaming. Il est extrêmement vu, par exemple, aux Philippines. Il y a énormément de Philippins qui se connectent sur Mubi, qui est la plateforme de streaming des cinéphiles qui le propose. Et il y a une blogueuse, je sais pas, philippine, qui a dit aux gens de prendre des VPN pour le voir. Et en fait, il y a une sorte de logique avec le temps. Donc, en effet, peut-être que j'ai fait cet échec-là exprès pour retourner à la bande dessinée, mais je ne le contrôlais pas vraiment.
Au fond, Vincent Lacoste devait être votre Antoine Douanel. Il va l'être, mais pas au cinéma, en bande dessinée.
Bah peut-être, oui, c'est vrai. Voilà.
Vous n'allez pas le quitter, là, pendant... On va en avoir des albums chaque année, avec une régularité de métronome.
Non, parce qu'en fait, le jeune acteur, ça va être 3 albums, je pense, parce que là, j'ai déjà écrit jusqu'à la fin, parce qu'il va bientôt avoir 30 ans, il ne sera plus jeune. Ah. L'idée ensuite, c'est peut-être, pourquoi pas, de faire le grand acteur. S'il devient acteur hollywoodien, ce sera super. Et s'il a un échec et c'est complètement nul, bah, le grand acteur sera le fantôme de ce qu'il aurait pu être. Mais la célébrité, c'est quand même un thème passionnant. Moi, je trouve ça passionnant.
Le futur nous le dira. Merci Riyad Sattouf.
Merci à vous.
Le jeune acteur, les aventures de Vincent Lacoste au cinéma, ça vient donc de paraître aux éditions Les Livres du Futur.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Sylvie Ohayon, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes la réalisatrice de Papa Was Not Rolling Stone, adapté de votre premier roman. Depuis, vous avez écrit 5 autres romans. Et mercredi prochain, votre second film sort au cinéma avec Nathalie Baye et Lina Koudry. Il s'intitule Haute Couture. La haute couture, c'est un sujet que vous n'abordez pas sous l'angle du grand créateur, comme c'est l'usage. Vous, ce sont les couturières qui vous intéressent, les petites mains, les cousettes qui savent faire dans l'atelier pour fabriquer la collection. Pourquoi ? Parce que c'est un univers... exclusivement féminin ?
Non. En l'occurrence, ça ne l'est plus beaucoup, puisqu'il y a énormément de cousettes masculines, j'ai envie de dire, qu'on rejoint les grandes maisons françaises et internationales. Non, c'est juste que, en fait, il y a quelques années, j'ai lu un article sur une Anita Briet, qui fut le bras droit de Monsieur Lagerfeld pendant 50 ans. Une femme très humble qui a cousu des ourlets toute sa vie en gagnant pas très bien sa vie et qui a dévoué sa vie à la couture, et ça me touche beaucoup. En fait, tout ce que l'artisanat a de plus beau dans ce pays me touche énormément.
Nathalie Baye joue une chef d'atelier proche de la retraite qui travaille sur sa dernière collection. Elle est extrêmement raffinée dans son travail, mais elle jure comme un charretier, ça n'est pas antinomique.
Alors non, parce que précisément là aussi ça relève d'une petite anecdote où j'avais amené une amie grande bourgeoisie 16e arrondissement qui devait se marier, bref, et qui tombe enceinte 6 mois avant ses noces. Catastrophe, on va chez Chanel, la robe avait déjà été commandée, etc. Zut, j'ai dit la marque, bon, peu importe. La cousette descend et puis, alors qu'est-ce qui se passe ici? On a un polichinelle dans le tiroir avant l'heure? Donc elle se met à causer comme ça. Et je dis, ah, mais c'est pas commun, dis donc. Et puis elle commence à déployer ses aiguilles, son maître, etc. Et là, la délicatesse humaine sort de ses doigts. Et je me dis, mais c'est incroyable, cette femme qui jure comme une poissonnière d'Astérix et qui arrive à déstructurer une robe comme ça dans un geste presque magique et à restructurer la robe autour du petit ballon de mon ami. Alors, donc je me suis dit un jour je rendrai hommage à ces femmes-là.
Oui, et alors c'est plein de petits détails comme par exemple faire tomber des ciseaux dans l'atelier, ça porte malheur. Il faut aussitôt se laver les mains au gros sel pour conjurer le mauvais sort. Ça aussi c'est exact, j'imagine.
Oui, j'ai beaucoup étudié la question. Comme j'ai une formation universitaire, avant de me lancer dans un sujet, je balaye à peu près tout le spectre du secteur auquel je m'attaque.
Bon, c'est aussi un film de formation. Cette chef d'atelier prend sous son aile une jeune banlieusarde qui lui a piqué son sac dans le métro. Elle décide de la former, de lui donner un métier. S'ensuit la confrontation mouvementée entre une dame irascible et taciturne et une ado rebelle qui ne respecte ni les horaires ni la bienséance. Un peu comme Jean Gabin et Alain Delon dans Mélodie au sous-sol, sauf qu'elle ne cambriole pas un casino, elle travaille chez Dior.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, absolument. Bah, c'est bien résumé. Oui. Non, mais en fait, j'ai envie de dire que la maison Dior, la haute couture, tout ça, c'est un peu un décorum pour exprimer le fait que moi, je viens de banlieue, par exemple, j'ai migré vers les beaux quartiers, le 8e, etc. Et pour nous, il y a comme des plafonds de verre, mais pas que des plafonds, des fenêtres de verre, des sols de verre, et puis du verre épais, hein, du verre blindé. Et on se dit, jamais on sortira de cet endroit-là. Et en fait, ça m'intéressait de plonger une gamine de banlieue dans l'univers du luxe. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, le fond du sujet du film, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'on donne aux enfants qu'on n'a pas porté? Qu'est-ce qu'on donne aux enfants qu'on élève mais qui ne sont pas nos enfants? Parce que moi, je suis mère et belle-mère et c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup.
L'autre morale, c'est qu'on peut s'arracher à sa condition, changer de destin. C'est ça, au fond, la morale du film.
Par le travail, Frédéric.
Oui. Vous avez grandi dans la cité des 4000, je crois. Est-ce que c'est vous, cette jeune ado rebelle? Est-ce que vous aussi, vous teniez la maison? Est-ce que vous aussi, vous étiez responsable de votre mère? Est-ce que vous aussi, vous étiez voleuse?
Oui, tout est vrai. Et j'ai envie d'ajouter, en fait, moi, je suis Esther et Jade.
Esther, c'est Nathalie Baye.
Nathalie Baye, pardon. Oui, je suis le personnage d'Esther, le personnage de Nathalie Baye, et je suis Jade aussi. Je suis psychorigide, pas très sympa dans le travail, comme Esther, mais recto, loyale, on peut compter sur moi dans le boulot. Et je suis effectivement la petite Jade, d'ailleurs Jade qui est le prénom de ma véritable fille dans la vraie vie, tant qu'à faire. Il y a aussi la projection de mon arrachement à ma cité pour aller rejoindre un univers auquel j'étais pas destinée à la base.
Esther, puisque vous l'appelez Esther, le personnage interprété par Nathalie Baye, explique à la jeune ado rebelle interprétée par Lina Koudry, elle lui explique qu'elle ne lui donne pas un boulot, mais un métier. C'est une très bonne scène, c'est très différent, un boulot et un métier.
Oui, parce qu'un boulot, ça se fait, et voire ça se subit, un métier, ça s'apprend. Et alors, ça doit être peut-être mon ascendance juive, ou je sais pas, ou nous, on est quand même, on est élevé dans le dans le culte un peu du travail. Bon, c'est une religion qui est basée sur le texte. Les petits garçons vont au Talmud, très très jeunes, etc. Donc l'étude est quelque chose d'important pour nous, dans notre communauté. Et en fait, très logiquement, après, effectivement, on doit beaucoup donner à son travail. Parce que moi, mon grand-père me disait toujours, l'amour, on ne sait pas ce qu'il va te rendre, mais le travail, tu lui donnes, il te rendra toujours.
Mais un métier, voilà. Dit-elle aussi, ça s'emporte avec soi.
Oui. Bah, encore une fois,
c'est pas
le
un job,
passif
quoi,
juif,
c'est...
Hein, j'ai envie de dire. Non, mais c'est vrai, ou avec la diaspora, ou avec les différents épisodes qu'on jalonné notre histoire, il a fallu changer de pays régulièrement. Et encore une fois, je me suis inspirée de mon grand-père, qui a dû quitter sa Tunisie natale pour venir en France, et qui, heureusement, avait un métier dans les poches qu'il a pu exercer en France et nourrir sa famille grâce à ce métier. Rien ne se perd, tout est pris dans le réel.
Ouais. Et puis un métier, c'est ce qui vous nourrit vraiment, au fond.
Jade, oui, oui.
Jade, votre jeune héroïne, a une amie qui s'appelle Souad, génialement interprétée par Soumaï Boukoum.
Merci de le souligner.
Ah oui,
merci.
Elle est formidable. Leurs dialogues sont formidables aussi. Ce n'est pas du tout la caricature du parler banlieue auquel on a droit habituellement. Est-ce que c'est improvisé ou vous vous êtes souvenu, là encore, de votre enfance dans la cité des 4000?
Alors, mon enfance, oui, mais il faut savoir que la Courneuve, je l'ai quittée à 26 ans
ah
et
bon.
Tout est écrit. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'improvisé. Alors après, Soumaï, elle vient du même monde que moi, donc elle a les intonations, elle s'est posée sa voix, etc. Il y a eu quelques petites répliques fleuries de son propre fait à elle, mais que malheureusement, j'ai pas pu mettre au montage parce que le film aurait duré 4 heures tellement sa langue et notre langue de banlieue est riche. Mais non, tout est absolument écrit.
Alors pour moi, c'est un pur film de femme, Sylvie Ohayon, dans un univers presque totalement féminin. Les femmes sont actives, responsables, elles sont les seuls moteurs de l'action. C'est nouveau ça, au XXe siècle, ça n'existait quasiment pas et il y en a de plus en plus des films comme ça. Est-ce que vous en êtes consciente ?
Oui, parce que peut-être que le monde est en train d'évoluer doucement dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on est en train de se dire qu'il y a pratiquement autant de femmes que d'hommes, même s'il y a en vérité un peu plus de femmes que d'hommes, mais bon, passons. Peut-être qu'il est temps de faire entendre la voix des deux genres qui composent l'humanité.
Mais en même temps, vous voyez bien à quel point ça change tout, parce que pendant un siècle de cinéma, quasiment, les femmes jouaient un rôle secondaire au cinéma. Ça renouvelle complètement le cinéma.
Parce que pendant longtemps, le cinéma a été fait par des hommes, et qu'aujourd'hui, le cinéma est en partie fait par des femmes. Alors effectivement, les points de vue sont différents, les voix sont différentes, et l'expression de ces voix est différente aussi. Mais ça ne remet pas en cause, le cinéma des hommes est magnifique aussi, enfin... Moi, j'ai hâte d'aller voir le prochain Audiard, par exemple, les Olympiades, où je pense qu'il rend un bel hommage aussi à la jeunesse de ce pays,
mais quand
féminine et masculine.
Quand vous voyez les films du XXe siècle, vous voyez ce qu'on appelle le male gaze?
Oui, absolument.
Vous voyez le regard masculin?
Quand on voit le clan des Siciliens, il n'y a pas beaucoup de Siciliennes. Voilà, quand on regarde le cinéma de Verneuil, etc.
Il y a des Siciliennes, mais elles apportent des ennuis.
Oui, mais enfin bon, elles font des pattes, quoi. Donc.
Non, pas seulement, elles font l'amour aussi, ça apporte des ennuis. Je vous rappelle que c'est à cause d'elles que
oui,
la violence
voilà,
fait tuer.
Voilà. Ou alors elles tentent des pommes empoisonnées, enfin bon, voilà. Donc, non, mais plus sérieusement, je pense que, voilà, moi je suis très amie avec Sylvie Verrette, par exemple, qui est quelqu'un dont j'admire le travail, la consistance et la constance. Dans le discours qu'elle déploie d'un film à l'autre. Madame Claude est un film, je pense, à notre époque, qui vient d'être fait, qui est éminemment politique, dans le bon sens du terme, enfin dans le sens platonicien du terme. Et je pense que de plus en plus de films de ce genre vont exister, et c'est une bonne chose.
Merci Sylvie Ohayon. Haute couture, ça sort mercredi au cinéma.
Europe 1.
C'est arrivé demain et terminé. On se retrouve samedi prochain. Dans quelques minutes commencera le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, présenté par Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia, qui est votre invitée ?
Bonjour Frédéric. Notre invité du grand rendez-vous sera le président du Sénat, Gérard Larcher. Et pour l'interroger, je serai entourée de Nicolas Barré et Mathieu Bock-Côté.
Merci Sonia, bonne émission.
Europe 1.